Aliette, bonjour.
Bonjour Franck.
Ah, ça y est, on se retrouve enfin. J'étais impatient de que cet été se termine pour qu'on puisse à nouveau se voir pour que vous nous parliez d'un film qui a marqué vraiment l'époque de sa sortie et qui, je crois, marque encore, puisque c'est quand même un film qui a été créé à partir de d'une pièce de Shakespeare. Donc voilà, donc en fait, cette pièce de Shakespeare qui a passé les siècles, en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même pas nouveau. Et donc voilà, donc Aliette, de quel film s'agit-il?
West Side Story.
Ah.
Donc plus de 50 ans. Aujourd'hui, on dirait que c'est un film culte, sans doute. Et quand vous dites que c'est une reprise de Shakespeare le reprend bien sûr d'histoire atemporelle, d'histoire. Et j'étais amusée de voir dans quelques commentaires que certains, au lieu d'hésiter entre est-ce une comédie musicale ou est-ce une tragédie grecque, avaient pensé que c'était une tragédie musicale, ce qui était une façon de faire l'association entre les deux. Et ce qui est commun entre comédie musicale ou tragédie grecque, c'est le rythme, l'énergie, cette force, cette intensité, évidemment, avec des personnages qui pourraient être stéréotypés, mais qui ne le sont pas. Et bien sûr, j'aimerais revenir sur ces différents personnages, mais certainement que ce qui a été une raison de ce film tellement prisé, reconnu, qui a valu aussi beaucoup d'Oscars aux différents acteurs de cette alchimie-là, c'est la sensualité. Sensualité qui passe par le choix des caractères, qui passe par les couleurs utilisées, qui passe par le tempo, qui passe par ces chansons, évidemment, dont on se souvient dès la première fois, avec la musique de Bernstein, avec les textes extraordinaires aussi. Avec juste la petite frustration dont j'ai pris conscience que récemment, que c'est pas Natalie Wood qui chante, mais qu'elle est doublée. Voilà.
Et en effet, et donc en fait, en me renseignant, j'ai vu que tous les comédiens sont doublés, sauf, je crois, Rita Moreno, qui joue le rôle d'Anita pour quelques chansons. Mais les metteurs en scène, les réalisateurs voulaient absolument avoir des professionnels de la voix. Et donc, comme il leur demandait déjà de jouer et de danser, il estimait que, enfin, c'est pas qu'il estimait, c'est que après quelques tests, il avait trouvé que les voix n'étaient pas, ne correspondaient pas au niveau qu'il demandait.
Voilà, exigé. Ça a été beaucoup de frustration aussi. Ça a fait provoquer, je crois, beaucoup de tension dans l'équipe des comédiens.
Et en fait, alors donc, j'ai été surpris de voir que Georges Chakiris, qui en fait dans la comédie musicale jouait le rôle de Riff.
Oui. Ça.
Alors que dans le film, il joue
l'autre rôle,
le chef des Sharks, le chef des Jets. Ouais.
Pour moi, évidemment, c'est Natalie Wood qui attire toute la lumière, notamment dans la scène avec sa superbe robe blanche qui m'a fait bien sûr penser aussi au bal de Autant n'importe le vent, qui m'a fait penser à d'autres choses. Évidemment, la chorégraphie m'a rappelé la séduction sur moi du groupe de Alvin Alley qui joue régulièrement à Paris aussi, qui est justement cette association entre rythme et sensualité, et qui est aussi annonciatrice de hip-hop probablement. Donc il y a ce caractère central de Natalie Wood, qui joue Maria, et peut-être un des points faibles pour moi avec le recul, c'est le casting masculin. Alors après, je me suis aperçue effectivement que si on remet cette histoire dans la tradition de la tragédie grecque, mais aussi, oui, surtout de la tragédie grecque, on s'aperçoit que ces hommes, ils sont tous un petit peu d'abord des fils de leur père, soucieux de ne pas faire trop de rififi, soucieux d'obéir, et ils se mettent souvent dans la gueule du loup. Donc là, ce que je voyais, c'était que les parents de Shakespeare, enfin dans les pièces de Shakespeare, ne sont pas représentés ici, parce que ce sont plutôt des enfants qu'on dirait orphelins, mais ceux qui prennent le rôle des parents, ce sont les flics. Et là aussi, ils sont plutôt falots, prêts à être bernés, très faciles à duper, et ça introduit quelque chose d'une dérision sur les figures parentales, en quelque sorte, sauf Doc, qui lui est aussi une personne adulte qui vient rappeler tous ces jeunes à la raison. C'est lui qui est intéressant, c'est lui dont on pourrait dire aujourd'hui que c'est un parent normatif. Les autres sont ridicules, ces flics.
Oui.
Du début à la fin.
Oui. D'autant que en plus, donc l'inspecteur, à un moment donné, dans une scène, finalement, montre son côté raciste vis-à-vis des Portoricains. Et donc, justement, alors au début, en fait, dans le projet de ce film, en fait, c'était d'abord, et de la comédie musicale, en fait, il pensait d'abord mettre en conflit les Italiens.
Oui.
Et les Italiens, et je ne sais plus d'ailleurs en face.
Les Portoricains ?
Non.
Pas encore, c'était moi.
C'était les Italiens
non.
Et.
Non, c'était les
Juifs. Et les Juifs, voilà. Les Italiens contre les Juifs. Et ça devait s'appeler d'ailleurs East Side Story. Et finalement, donc, je ne sais plus comment ça s'est arrivé, mais il a finalement mis en opposition. Parce que les Portoricains, justement, c'était une période où les Portoricains arrivaient beaucoup aux États-Unis.
En grand nombre.
Et donc
ça, quelle que soit la nationalité des uns des autres, ça posait un décor social, quasiment politique, avec ces enjeux sociaux de rivalité qui ont toujours existé et qui continuent, évidemment, que ce soit en Palestine, que ce soit. Donc ça, c'était l'irruption du social dans le film, très rapidement d'ailleurs avec le claquement de doigts, etc. Donc la force de ce film, c'est l'alternance entre des moments très tendus pour des raisons politiques, des moments très tendus pour les besoins d'une chorégraphie très musclée, et des moments aussi très émouvants, évidemment, avec l'histoire d'amour qui nous renvoie nettement à Roméo et Juliette, avec surtout un amour impossible, et qu'il est très bien. Avec, bien sûr, ce qui est identique dans la pièce de Shakespeare et dans ce film-là, c'est l'idée, le balcon de Vérone est repris ici par les escaliers métalliques dans les immeubles new-yorkais. La présence de New York est importante, mais surtout avec ce décor où il y a comment on appelle ça ?
Ces avenues ? Non, je ne sais pas.
Non,
les tours ?
Les barrières.
Ah oui, les barrières, en effet, d'accord. Oui,
donc, il y a ces barrières dans sur les lieux de sport. Ça dit aussi quelque chose en lien, bien sûr, avec la danse. Donc, c'est un décor urbain, un décor très sobre. Il y a quelques scènes dans la maison, notamment lorsque Maria se prépare et parle de tenue, de vêtements, etc. Mais la chorégraphie est limitée à ce décor urbain, évidemment. Moi, j'ai aimé, je fais juste une petite parenthèse sur la progression des couleurs. Il y a quelque chose de sombre, avec des rues sombres, et puis il y a trois couleurs. D'abord, le jaune, qui est un pot de peinture jaune qui est versé sur la tête des acteurs, là, avec un trait d'humour. Ensuite, il y a la lumière de cette robe blanche de Maria qui retient toute notre attention et qui est vraiment très très belle. Et bien sûr, le dernier quart du film, c'est la couleur rouge avec la robe de Maria, le gyrophare des flics, évidemment le sang, et cette dernière scène qui est juste sublime, parce que ce sont les camarades, non pas de jeu, mais de guerre, de tous ces conflits sociaux, qui viennent prendre la dépouille mortelle de celui qui vient d'être tué, qui le porte hors du champ du film. Et c'est aussi un homme, me semble-t-il, qui met un voile noir sur la tête de Maria, qui reste là comme, non pas comme une veuve sicilienne, mais plutôt comme cette vierge, comme Antigone, comme les autres héroïnes du théâtre grec, qui reste là à la fois, vierge et veuve, comme quelque chose d'inachevé. Et il y a ce moment où elle est laissée toute seule sur ce terrain de jeu, je crois, je me souviens de ça, et elle est juste dans le chagrin d'une haine qui n'a pas pu être soldée là par la mort, qui va rester comme quelque chose de récurrent, mais un sacrifice. Voilà, donc je voyais vraiment aussi cette jeune fille sacrifiée après toutes les histoires de conflits, de guerres et de luttes à plus ou moins armées. Mais il y a aussi un autre personnage féminin qui s'appelle la punaise, enfin c'est la traduction que j'ai trouvée, qui est une jeune, c'est la seule fille dans ces groupes de gars, de garçons, et elle est menue, elle est habile, elle dit que c'est elle qui va aller chercher des choses parce qu'elle se faufile partout, elle est quelquefois un peu disqualifiée par ces bandes de garçons, mais elle reste comme une figure de fille péchue. À défaut d'être sensuelle, elle est futée.
Oui. Et juste, oui. Et voilà, moi, plusieurs choses m'ont frappé justement, non, dont cette vraiment cette séparation des femmes. C'est un film très machiste. Enfin, un film. Oui. C'est pas le film. C'est le thème. Ces groupes sont très machistes.
Mais parce que ça reprend la tragédie grecque.
Oui. Ah oui. D'accord. Et donc justement, et cette femme là qui voudrait bien être intégrée dans ce groupe d'hommes.
Oui.
Qui a du mal et qui finalement finit par y être parce que le chef décède et que c'est un autre chef qui prend, qui est peut-être un peu plus ouvert et qui l'accepte parce qu'aussi elle a prouvé qu'elle pouvait.
Elle doit faire ses preuves
comme toutes les femmes dans les entreprises par exemple.
Partout, de montrer beaucoup d'intelligence pour arriver à se faire reconnaître. Donc, parce que Maria, elle, représente la femme qui est instrument d'alliance ou de pouvoir. Et d'échanges d'une famille à l'autre, comme pour Shakespeare aussi, ou comme dans la tragédie. Donc, alors que la punaise, elle est complètement, elle a complètement une autre fonction dans le social.
Alors, elle s'appelle Anybody's dans le film.
Ça, j'avais pas mémorisé.
Voilà,
ça,
j'avais noté justement hier, parce que ce rôle-là, j'avais bien aimé ce rôle. Voilà, et moi, une autre chose aussi, donc, qui m'a beaucoup frappé. Moi, dès le début du film, enfin, quand je l'ai revu ces jours-ci, je me suis rappelé en fait mon village, ou les villages autour, et les groupes de blousons noirs qui allaient au bal le samedi qui se bagarraient et qui se retrouvaient lundi au lycée et qui étaient potes en fait. Là en fait, effet, je vois bien ces deux groupes qui pourraient être très amis en fait. Et notamment quand je vois la négociation dans le bar de Doc pour la bagarre, en fait ils sont tellement. Ils se ressemblent tellement que. Je vois qu'ils pourraient faire la bagarre en jouant aux cartes, ou je ne sais pas, ou au bras de fer.
Merci pour cette observation, parce que moi j'aime bien aussi le mot escarmouche. Ils sont tout le temps dans des escarmouches. Mais si je replace encore une fois cette histoire dans une tradition plus importante, notamment celle des guerres, parce que là c'est de la guéguerre, mais celle des guerres, ça veut dire quand même que tous ces jeunes, ils sont prêts aussi à jouer aux cartes ensemble dans les guerres internationales, etc. Mais que pourquoi est-ce qu'ils continuent à jouer gros bras, à être comme ça dans de la provoque? C'est parce qu'il y a encore des blessures chez les figures parentales et qu'ils sont mandatés par les pères pour continuer une guerre qui n'a pas été soldée. Et donc on voit ça, par exemple pour les guerres mondiales, c'est ce qui s'est passé, quelque chose qui n'a pas été traité dans la première guerre, et on savait bien qu'il y avait quelque chose qui allait éclater pour une seconde. Et pour moi, c'est ça qui a un intérêt, c'est cette loyauté familiale ou clanique qui fait qu'on va continuer à être dans l'hésitation entre soit une solidarité, comme vous dites là, de clans qui voudraient bien jouer aux cartes plutôt que de se faire la guerre, et ou alors, si ce n'est pas possible, c'est cette rivalité qui va bien sûr supposer qu'on sacrifie les enfants à la cause des parents ou à la haine des parents. Si je replace cette histoire, donc, qui a été évidemment objet de reprises multiples, si je la replace dans vraiment cette logique de tragédie et d'histoire qui nous captive au point d'en faire encore des films cultes, je voyais l'opposition entre ces jeunes filles qui attendent l'amour, la rencontre, la vie, en face donc d'hommes, de jeunes gens qui sont eux un peu falots, un peu aussi des hommes qui s'ennuient. Et donc c'est comme si, en délirant un petit peu, je vous disais que leur façon à eux de ne pas s'ennuyer, c'était de faire la guéguerre entre potes, ou bien de faire la guerre avec le départ pour être chevalier. Et ce qu'on a vu au XIXe siècle aussi, dans les familles, c'était l'un qui reprenait l'affaire familiale, le deuxième qui partait conquérir le monde ou explorer le monde, et le troisième qui rentrait dans les ordres, avec chaque fois une mission qui permettait de reproduire quelque chose de classique. Et là, ce Tony, il s'ennuie beaucoup. D'ailleurs, parce que quand Bernardo vient le solliciter, il vient, il dit non, moi j'ai affaire.
Riff, vous voulez dire?
Peut-être Riff.
Oui, le chef des Jets.
Bien sûr, Riff. Et Riff s'ennuie, mais Tony un peu aussi. Si, je parlais bien de Tony. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu oisifs tous, d'où les rencontres, on vous parlait, Franck, dans les cafés, là, ça sera autre chose. Mais ce qui les anime, c'est la danse, là. Mais il n'y a pas un projet, il n'y a pas une mission, il n'y a pas un désir qui serait passer dans, à l'étape de, d'un projet qui fasse, qui bouscule et qui fasse mobiliser. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée, comme je l'ai vu pour les autres films, c'est en quoi ça parle aujourd'hui de nos jeunes qui peuvent s'ennuyer. Et on sait bien, quand on parle des jeunes de banlieue, que c'est un mot qui revient souvent, c'est quelque chose qui évite de les mobiliser. Et ceux qui vont dans ces quartiers savent bien que le miracle va passer parce qu'il y a quelque chose tout à coup qui va faire un projet commun.
Oui. Ceci dit, pour Tony, je vais mettre un petit bémol parce qu'il est dans une phase justement, il est entre deux. Il est en train de quitter son groupe.
Oui, c'est vrai.
Il travaille parce qu'il travaille dans le magasin de Doc. Et en fait, son projet, c'est, il sait qu'il va se passer quelque chose.
Il reste quand même vulnérable aux tentations de Riff qui vient dire allez, viens, je t'attends, j'ai besoin de toi, viens. Bon, il vient. Et bien sûr, heureusement qu'il le fait, parce que sinon, il n'y aurait pas de film.
Oui.
Chacun rentrerait chez lui sagement. Oui. Et donc, il y a toute cette appartenance clanique avec toujours rivalité ou solidarité ou partenariat.
Oui. Et c'est vrai que moi, donc, j'ai vu en deux parties. La deuxième partie, j'ai vu hier, donc, qui est vraiment la deuxième acte, qui est beaucoup moins musical, beaucoup plus dramatique.
Voilà.
Et donc, j'ai fini par pleurer dans ce film à cause de l'injustice, en fait, qu'il y avait de ce couple qui pouvait se créer entre Tony et Maria. Et qui, finalement, s'écroule, en fait.
Parce que la façon dramatique, c'est d'abord. C'est pas simplement une mésalliance potentielle et qui n'aura pas lieu. C'est que là, ça introduit quelque chose des familles. Des familles où il y a eu effectivement de l'animosité, ensuite elles sont devenues ennemies, et ensuite il y a eu cette haine dont nous savons bien qu'elle se passe d'une génération à l'autre sans savoir d'où elle vient. La vraie question, la vraie impasse, est-ce que je donne priorité à ce coup de foudre, pour faire court, ou est-ce que je donne priorité à mon appartenance à un clan, à une famille? Et là, on est du côté des hommes, où les femmes sont sacrifiées.
Oui.
C'est ça que j'ai trouvé intéressant.
Si on revient aussi à la partie dramatique qui fait que ce couple ne marche pas, il est déjà à la fin de la grande bagarre, en fait, ce moment dramatique. Parce que de toute façon, c'est sans avenir. Tony ne peut que aller en prison pour la vie. Quoi. Donc ce couple déjà est sacrifié aussi. Et c'est là que moi, ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup touché. Et en effet, en plus, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais vous allez peut-être me le dire, Aliette. Mais en même temps, il faut dire que c'est quand même sa première comédie musicale qui est une comédie musicale dramatique à New York. Parce que toutes celles d'avant étaient très édulcorées, tout allait bien.
Oui, ça se terminait, évidemment.
Et en fait, moi, j'étais en colère. Vraiment, je me dis, je vais regarder d'autres comédies musicales parce que, en même temps, c'était une période cinématographique où il y avait beaucoup, comme ça, de films dramatiques qui se finissaient mal. Avec les années 30 aussi, où ça se passait comme ça, où il y avait beaucoup quand je revois des films, justement, de ces périodes-là, je regarde presque sans espoir parce que je me dis, de toute façon, ça va mal se finir.
C'est pour ça qu'un autre mot auquel j'ai pensé en revoyant le film, c'était celui de sang-froid, avoir du sang-froid, ce qui est repris dans le film. Et je me disais aussi, c'est refroidir quelqu'un au sens de le tuer. Et ça m'a fait beaucoup penser au film Le Parrain, avec quelque chose aussi des clans, avec la mort qui rôde, avec les femmes qui sont sacrifiées, avec quelque chose de très macho. Mais il y avait beaucoup de points communs. Et avec quelque chose aussi qui est atemporel comme thème et comme traitement, enfin le traitement est différent, mais le thème est atemporel et ce sont des films cultes aussi.
Oui.
Les deux.
Oui. Une chose aussi dont je voulais parler, mais en fait ces deux clans sont des Portoricains qui sont en fait qui sont nés à Porto Rico et qui sont arrivés là contre finalement des Américains, mais entre guillemets, parce qu'ils sont que de la... C'est la première génération qui est née sur le sol des Américains. Et donc, en fait, leurs parents sont tous immigrés aussi. Et notamment, Tony est d'origine polonaise.
question-là aussi.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et en fait, donc, aussi, moi, ça me fait penser un peu à ce qui se passe en France,
où on
entend beaucoup de choses sur l'immigration et que finalement, on est tous quand même plus ou moins
le droit du sol, le droit tout ça. Ouais. Bien sûr que ça reprend ça. C'est ce que j'appelais le décor social, aussi atemporel et que nous pouvons reprendre de notre façon aussi. J'étais aussi touchée par ce qui était posé comme des conseils de guerre, quand ils se réunissent pour tenir des conseils. Et vraiment, ça aussi, ça m'a parlé de ce qui se passe, d'ailleurs pour les enfants dans la rue aussi, qui font des conseils. Oui. Il y a celui qui devient le leader, et ce besoin de parler entre soi, et de voir qui se désigne comme chef. Là aussi, avec la jeune fille punaise, enfin, qu'on appelle la punaise, quelle place elle a, comment est-ce qu'elle va se débrouiller. Donc, il y avait vraiment d'abord le conseil qui n'empêche pas la lutte qui provoque un accident, l'accident qui dégénère évidemment avec la mort. Ensuite, on a la peur des conséquences et bien sûr le chagrin. On termine avec le chagrin et Maria qui est toute seule sous son voile noir et qui pleure son amoureux avec cet amour impossible dès le début.
Ah oui, il y a aussi cette scène où Anita vient justement prévenir Tony et qu'en fait il y a une scène de pas de viol mais presque
terrible. Oui. Elle vient aussi presque voilée avec son écharpe comme ça et il y a cette encore une fois le potentiel crime sur la fille. Ça revient bien à ce que je disais entre il y a effectivement Maria, la punaise et évidemment Anita.
Oui.
Et les femmes sont toutes là menacées au moins par des sociétés machistes, patriarcales, je dirais ça. Et alors l'autre opposition, je venais de parler du parrain, mais je voyais que la première partie, parce que vous avez à cœur vous de distinguer les deux parties, la première partie ça ferait plutôt penser au film Fame. Avec un film à voir absolument
très
péchu, c'est la danse sous le temps, avec aussi des conflits. Mais je voyais d'abord cette priorité de la danse, de la musique, du tempo, du rythme, et puis ensuite on passe radicalement dans quelque chose de plus sombre et de plus statique aussi, qui est le parrain. J'ai beaucoup aimé aussi cette avant-dernière scène où les deux clans se retrouvent sur la dépouille mortelle aussi. C'est comme s'ils ne pouvaient se retrouver là que avec la mort qui suspend les haines, qui suspend les querelles.
En fait, moi, j'ai vu ça comme un rebelle qui finalement a dépassé la limite et qui s'en rend compte et que tout retombe.
Exact. Et que la tension retombe.
Oui, la tension retombe et d'un coup, il y a une association puisque les deux clans finalement portent le corps de Tony.
Oui, les deux.
Les deux camps. Et c'est en effet quelqu'un de un des jeunes du clan des Jets qui met
qui
le voile
le
voile sur Maria.
Et c'est comme si on pourrait dire que c'est mort parce qu'il y a plusieurs morts là. C'est on arrête de jouer et ça redonne du sens à ce jeu des jeunes qui c'est pour ça que j'aime bien le mot escarmouche city comme ça mais comme dans plein d'autres circonstances.
C'est ça, et donc voilà. Et donc, il a fallu arriver là pour que ces jeunes, à mon avis, grandissent, quoi.
Grandissent, et c'est évidemment bien plus déterminant que la morale faite par les flics, et que là, on est dans un principe de réalité, qu'il y a des choses qu'on peut pas, avec lesquelles on ne peut pas jouer sans, effectivement, provoquer la mort, d'une façon ou d'une autre.
Ce que je vois aussi, c'est... C'est Chino qui est allé très très loin et qui finalement part en prison, quoi. Donc, et ça, je trouve ça tellement... tellement du gâchis pour ce jeune qui avait sûrement autre chose à vivre que la prison.
Et ceux qui sont morts aussi.
Et ceux qui sont morts aussi, c'est sûr. Enfin, ils sont morts.
Ils sont morts. Juste, quand je parlais d'alchimie, c'est tous ces créateurs de génie. Bernstein et les autres, c'est-à-dire vraiment, c'est une rencontre exceptionnelle. Le chorégraphe, les deux scénaristes, Robert Wise, c'est étonnant. Et ça a pris, c'est vraiment une alchimie de génie.
Ça a été par contre très conflictuel.
très conflictuel, certes. Entre les deux, ouais. Ça, c'était le prix à payer pour la rencontre de tous ces génies qui devaient sans doute tenir à leurs idées, etc. Oui. Mais le résultat est étonnant encore aujourd'hui. Même si on peut voir certaines faiblesses, des scènes, bon. Mais qu'importe, c'est un film qui se regarde, que je trouve, moi, un tout petit peu long. Mais ça, c'est ma sensibilité quand ça dépasse 2 heures, même quand ça dépasse 1h30. Là, c'est un tout petit peu long et je vois que si j'avais été si j'avais pris la responsabilité de faire des coupes, je vois ce que j'aurais pu couper là, sans endommager trop cette œuvre majeure. Mais c'est un film qui a marqué à sa sortie, qui a marqué tous les spectateurs et qui continue aujourd'hui à avoir du sens pour nous et à nous inviter à savourer ces moments-là et à réfléchir aussi à toutes les questions qui sont posées là, des questions sans réponse.
Et la preuve de ce que vous dites, c'est qu'il sera à la scène à Boulogne-Billancourt, en spectacle, tout le mois d'octobre. La scène musicale, merci. Tout le mois d'octobre. Donc c'est vraiment quelque chose qui suit. Alors, en effet, comme ça vient de tellement loin de toute façon et de notre inconscient
des archétypes. Ouais. Et bon, est-ce qu'on voit bien, donc Shakespeare le traitant à son époque, là Robert Wise et compère à son époque, et aujourd'hui, qu'est-ce qui sera nouveau et renouvelé et d'actualité sur la scène musicale? C'est la question qu'on peut se poser.
Oui, je suis curieux de voir comment ils l'ont arrangé.
Rendez-vous à la scène musicale.
Ben oui, c'est vrai. Eh bien, écoutez, Liette, je sais que j'avais d'autres choses à dire, mais je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Un rendez-vous pour un prochain film.
Une nouvelle aventure. Cinématographique.
Voilà. Au revoir, Liette.
Au revoir, Franck. I'll never stop saying Maria.